bienvenue dans ce nouvel épisode de Jason Pédagogie Numérique. Nous allons faire une pause pour parler d'un système qui mérite une attention particulière, la cote R. Chaque parent québécois ayant un enfant qui s'apprête à entrer au cégep sera tôt ou tard confronté à l'énigmatique cote R. Cette évaluation du rendement collégial au Québec suscite des réactions contrastées. Certains la craignent, tandis que d'autres y voient un mystère plein de secrets. Les enseignants, de leur côté, s'efforcent d'offrir un soutien adapté pour assurer la réussite des étudiants et étudiantes dans leur parcours académique. Mais alors, pourquoi ce système, conçu pour égaliser les chances, génère-t-il autant de préoccupations? Nous explorerons cette question avec Martin Riopel, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal, et Martin Perriard, professeur de physique au Collège Bois de Boulogne. Ensemble, nous plongeons au cœur de la question en cherchant à en démystifier les rouages. Alors je vous souhaite une bonne écoute. On va parler d'un sujet. Alors moi, je me permets de dire un sujet qui fâche. On va le savoir, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être fâché au sujet de la cote R? On va pouvoir l'aborder. Donc, c'est de cote R qu'on va parler aujourd'hui, Martin Perriard et Martin Riopel. Donc, ce qui va se passer, c'est que avant de commencer, de sauter les deux pieds joints dans le plat, je vais demander quand même de vous présenter. Ma question rituelle un peu, c'est voilà, je veux tout savoir sur vous, comment vous en êtes arrivé là, puis comment... Comment vous en êtes arrivé à parler de sujets qui fâchent, Martin
Perriard? Je vais commencer. Tu peux toujours redonner le micro à Martin. Il y a un ou deux qui va parler. Moi, c'est Martin Perriard. Je suis professeur au collège de Bois de Boulogne. J'enseigne depuis au collège depuis 1993. J'ai un bac en physique que j'ai fait en même temps que Martin. C'est comme ça qu'on s'est connus. L'arrivée de la cote R dans ma vie à moi, c'est arrivé dans ma vie professionnelle. En tant qu'étudiant, c'était la cote Z dans mon temps, quand j'étais étudiant. Donc, je l'ai vécu par le biais des étudiants qui vraiment en parlaient beaucoup. Mm-hmm. Puis, une question qui m'est... j'ai écrit un article en 2002, j'ai un peu lancé le bal, c'est sûr. L'effet, est-ce que aider un élève peut faire baisser la cote R? Donc, c'est par le biais des craintes des étudiants. Puis c'est arrivé par un incident très technique, c'est qu'à Bois de Boulogne, on a décidé d'essayer quelque chose, de faire juste un intra plutôt que deux, donc un examen intra-semestriel pendant la session, puis de donner la chance aux étudiants qui avaient une mauvaise note de le reprendre, de le refaire pour monter leur note. Puis les étudiants disent, c'est pas juste, ça va nuire à notre cote R parce que ça va monter la note des autres. Je savais pas très à quel point c'était légitime ou pas, donc j'ai fait des simulations. Mm-hmm. J'ai montré que, dans le fond, aider un autre élève ne nuisait pas du tout à la cote R. Ça aidait pas mal tout le monde. Fait que j'ai écrit un article là-dessus, mais j'étais pas les deux mains dans la cote R. Je voyais ça un peu de l'extérieur.
Martin, on va reparler justement de cette cote R. On est vraiment là pour démystifier aussi, parce qu'il doit y en avoir quand même des sacrées légendes urbaines sur la cote R. Martin, je te laisse te présenter et tout nous dire.
Donc, Martin Riopel, donc j'ai un peu le même parcours que Martin Perriard. En fait, c'est là qu'on s'est connus au baccalauréat en physique. Puis j'ai enseigné au collégial, comme Martin, pendant une quinzaine d'années. Puis, comme Martin, j'ai vécu l'ancêtre de la cote R comme étudiant, et puis mes amis avec la cote Z à l'époque, il y avait une stratégie bien connue qui était d'aller dans un collège dont la moyenne était faible. Et puis j'ai des amis qui ont fait ça, qui sont entrés en médecine et tout ça, et qui aujourd'hui c'est des médecins et tout ça. Il y avait une stratégie très claire, et puis ceux qui le faisaient, c'était très payant. Donc j'ai vécu comme ça. Ensuite, je l'ai vécu comme enseignant quand j'étais au collégial. Puis j'ai vu les étudiants, comment ils réagissaient à tout ça. Et puis je me souviens de certains étudiants qui... Et j'avais perçu ça quand j'étais au collégial, qui était dans des programmes spéciaux, assez homogènes. Les étudiants étaient assez homogènes. Et dans ces programmes-là, ceux qui étaient sous la moyenne avaient plus aucune chance d'entrer en médecine. On le savait par expérience. Et je trouvais que c'était injuste pour eux, parce que c'était des très bons étudiants. Puis on voyait qu'il y avait un problème là. Et ça, c'était dans mon esprit. Bon, ensuite, j'ai poursuivi, je suis allé à l'université, j'ai poursuivi mes études, j'ai eu un poste à l'université. Et là, on est revenu me voir lorsqu'on révisait la cote R pour dire, est-ce que tu pourrais regarder les données, voir est-ce qu'il y a quelque chose là? Et c'est là que je me suis penché plus à fond sur la question. Et j'avais en tête cette question-là des étudiants des groupes homogènes et ça a fait en sorte qu'on a fait des analyses et puis on a montré qu'il fallait aussi considérer l'homogénéité du groupe dans la façon de faire les choses. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis là, on est arrivé à une proposition qui est la plus raisonnable, on pourrait dire, dans le contexte.
Martin a mentionné la cote Z. On parle de cote R. On va peut-être, dans cette démystification un peu du sujet, on va peut-être remettre à plat qu'est-ce que c'est qu'exactement la cote R. Et je dirais peut-être faire quelques bonds en arrière, puis essayer de revenir un peu aux origines de qu'est-ce que c'est la cote R. Est-ce qu'on peut repartir à l'histoire de ce cadre et puis savoir d'où ça vient tout ça?
Ben, je vais commencer au Québec, hein, tout le moins. C'est probablement assez classique comme système. C'était les notes. C'était les notes du cours classique, après ça du cégep, qui basait l'admission à l'université. Pour les disciplines contingentées, c'était les grosses notes. Pour des gens comme moi qui s'en allaient en physique, la note était même pas regardée. C'était juste avoir le diplôme.
Au moins la moyenne. Ou avoir le diplôme.
C'est ça. Donc, on voit déjà apparaître l'apparition de deux univers. Il y a ceux pour qui les notes sont très importantes, d'autres pour qui c'est très mineur. L'important, c'est de réussir au complet, d'avoir le diplôme. Il y avait des gens d'urbaine qui ont commencé à circuler à ce moment-là, que les universités commençaient à avoir des petits livres noirs où ils cachaient des informations, où il y avait un classement comme propre à eux sur quelle école, quelle note valait plus que d'autres. Mm-hmm. Je pense que c'est pour ça qu'il a été introduit ce qu'on appelle la cote Z dans les années 70. Qui est essentiellement une mesure statistique de ton écart par rapport à la moyenne du groupe. Donc, tu pourrais avoir une note de 80, puis avoir une très belle cote Z si la moyenne est plus basse, avoir une note de 90 et avoir une très mauvaise cote Z si la moyenne est plus haute. Okay. Ça commençait à introduire l'idée d'avoir le groupe comme comparaison, non pas juste toi en tant que tel, puis une note qui est dans l'absolu un peu dans les airs comme ça, sans référent. Mm-hmm. Mais il y avait des problèmes assez criants par rapport à la cosette. Martin en a tout de suite évoqué une stratégie que les étudiants utilisaient.
Ouais, tu peux la rappeler exactement cette stratégie? C'était quoi exactement? C'était quoi le mécanisme?
Ben, peut-être je peux le faire. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'aller dans un collège où la moyenne des étudiants dans les groupes était plus faible. Comme ça, lorsqu'on avait une bonne note, on s'éloignait beaucoup plus de la moyenne. Et donc, on avait beaucoup plus de chances d'être admis.
D'accord, ok. Donc, en fait, cette histoire de la cote R, elle vient aussi, je comprends, pour aller rendre plus égalitaire l'accession à la continuité des études supérieures, si je comprends bien. Comment ça se passe en termes de programmes? Est-ce que c'est tous les programmes qui sont contingentés? Comment ça se calcule? Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet.
Après ma barre, la majorité des programmes ne sont pas contingentés. Mm-hmm. Puis vraiment, la cote R, c'est important de le mentionner, ça va être comme un élément assez criant pour certains étudiants dans certains programmes qui visent certains programmes contingentés. C'est pas comme la vie ou la mort par rapport à vos notes au collégial. Certains étudiants vont avoir un intérêt très particulier pour la cote R. Pour la grande majorité des étudiants, c'est pas si important que ça, mais je veux pas minimiser l'importance que ça a. Mais bon, la majorité des programmes n'ont pas vraiment de critères très clairs sur la cote R. Certains ont mis des notes comme minimum 24, ce qui est assez facile à avoir d'habitude, puis avec peut-être une entrevue à faire si vous avez moins que ça. Mais c'est pas tous les programmes qui vont regarder la cote R. On parle surtout des programmes contingentés en médecine, puis peut-être quelques génies.
Qu'est-ce qui fait qu'un programme est contingenté? Pourquoi on mettrait pas tous les programmes contingentés, par exemple?
Ben, c'est une très bonne question, puis il faut séparer ça, je pense, du calcul de la cote R lui-même, parce que la cote R, c'est un élément qui permet de prendre une décision. Et en fait, lorsqu'un programme est contingenté, c'est qu'il faut prendre une décision. Et puis, c'est une très bonne question, pourquoi faudrait-il prendre une décision dès l'entrée au programme? Puis, on le fait pas dans tous les programmes, comme Martin l'a dit, dans certains programmes, comme moi aussi, j'étais en physique. On a le diplôme, on entre, tout le monde qui le souhaite peut entrer. Et après ça, à la suite, dans les cours, va se faire une sélection qui fait que tout le monde ne pourra pas diplômer parce qu'ils réussiront pas les examens et tout ça. Dans d'autres programmes, ben là, le programme devient trop populaire en fonction des ressources qu'on a pour ouvrir des cours. Donc là, il y a trop de monde qui s'inscrivent et il faut choisir, il faut faire une sélection. Et tout le problème, le stress, lorsque souvent dans les discussions, on entend les gens, je suis stressé par la cote R et tout ça. Ben, je comprends que la cote R est l'incarnation de quelque chose, mais ultimement, c'est la sélection qui provoque le stress. C'est pas la cote en elle-même, c'est le fait qu'il faille choisir. Et lorsqu'on veut choisir, ben là, comment on fait? On peut le faire de toutes sortes de façons. Comme l'a dit Martin, c'est variable selon les programmes. Des fois, on va faire une entrevue. Des fois, on fait un test dans plusieurs universités américaines. On fait ça. On fait des tests, plusieurs tests. Et à partir de la moyenne de ces tests-là, qu'on a fait pendant quelques jours, on va décider qui on choisit, qui on choisit pas. D'autres fois, ça va être des mises en situation. Moi, je me souviens, j'avais une amie qui a été amie en médecine dentaire et il faisait un test avec une craie. Je pense qu'il le font encore aujourd'hui. Et si on brisait sa craie, là, c'était fini. On était exclu et tout ça. C'était le test de la craie. Ça s'appelait comme ça. Il fallait faire un petit trou dans la craie sans la percer, comme on fait avec les dents. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui sont mis sur place pour faire un choix. Et lorsqu'on fait ce choix-là, on peut évidemment imaginer toutes sortes de façons de le faire. Et une des façons, c'est d'utiliser au moins en partie les résultats scolaires. Et lorsqu'on commence à utiliser les résultats scolaires, et c'est là que je vais en venir, ben là, il faut choisir un seuil. Et là, le seuil, ça peut être la note que les gens ont eue. Mais si on prend juste la note qu'ils ont dans les cours, on sait bien que tous les profs mettent pas les notes de la même façon. Donc, ça devient un peu injuste. Si on prend la note, même si on dit c'est 95 ou c'est 88, ça devient un peu injuste parce qu'il y a des profs qui sont plus généreux que d'autres. Comment on fait pour corriger, rendre plus équitable? Ben là, il faut considérer, est-ce que le prof a mis des notes plus fortes ou plus faibles? Et c'est comme ça que la COTER est apparue. C'est pour corriger cet effet-là du prof et de l'école. Pour essayer de rendre ça aussi équitable que possible, de telle façon, est-ce qu'une personne, qu'elle aille avec un prof ou avec un autre prof, qu'elle aille dans une école ou dans un collège plutôt qu'un autre, ça ne change pas sa cote à la fin. C'est vraiment ça. L'idée, c'est de rendre ça aussi équitable que possible dans le contexte avec les informations qu'on a.
Oui, et puis effectivement, cette équité, elle se trouve aussi d'un point de vue aussi territorial, en termes d'accès à toutes les ressources qui peuvent nous permettre de réussir dans nos parcours. Peut-être dans des zones un peu plus éloignées, c'est un peu plus compliqué. Quand on se retrouve dans les grandes agglomérations, c'est beaucoup plus aisé, on a plus de stimulation. Donc effectivement, je comprends qu'il y a cet objectif initial qui était un objectif de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, voilà, et de donner des chances à tout le monde. Est-ce que c'est bien dans ce sens-là que c'est fait?
C'est exactement,
oui,
ça.
C'est ça. On va rentrer un petit peu plus tard dans les aspects un peu plus techniques de la COTER, puis on l'a comme pas fait apparaître encore. On était rendu à la COTER Z, mais on voyait apparaître des problèmes avec la COTER Z. Puis, pour revenir un peu à ta question, Florence, tout à l'heure, pourquoi contingenter? Je pense que c'est beaucoup souvent une question de place. Beaucoup de programmes n'ont pas assez de place pour accueillir tout le monde.
Mais moi, tu sais, je suis sûre que moi, je le vois aussi en termes de parents aussi. Tu sais, quand je disais que c'était le sujet qui fâche, c'est aussi un sujet qui est mené à plusieurs types de calculs, comme si le fait d'avoir en fait cette cote R qui était un système en fait de calcul, on va rentrer peut-être dans plus les spécificités de comment se calculer. Mais en tant que parent, on a ce souci de vouloir peut-être pas contourner, mais voir comment la machine fonctionne pour être sûr d'apporter les meilleurs outils pour que nos enfants, nos élèves, nos étudiants réussissent. Et c'est vrai que il y a cette question de la cote R vue comme le sujet où on n'arrive pas encore à le maîtriser parce qu'on comprend pas nécessairement quel est le fondement. Et tu l'as bien mentionné tout à l'heure, Martin, c'est cette notion en fait de stress. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup lu dans les journaux. Quand j'ai fait face à la cote R et à ce sujet de la cote R, moi, ce que je lisais beaucoup, c'était stress, dépression, santé mentale, les étudiants acculés. Et généralement, qui dit cote R et programme contingenté dit aussi programme prestigieux, dans le sens où on entend médecine, on entend quand même des disciplines où il y a quand même aussi un résultat qui est important dans l'excellence aussi du parcours suivi. Est-ce que c'est fondé tout ça, ou est-ce que, comme je dis, c'est dans l'air, c'est des raisons qu'on se donne qui sont un peu à côté de la plaque, je dirais, mais qui sont pas fondées?
Ouais, c'est tout à fait fondé. C'est normal d'être nerveux quand on a un rêve, on veut le réussir le plus rapidement possible. Puis bon, les étudiants se font une montagne avec la COTER, effectivement, mais de mon point de vue, qui est un peu plus vieux, j'ai un peu plus de vécu, on voit un peu des choses qui se passent, des étudiants qui ont des COTER très mauvaises, qui finissent par être acceptés en médecine. Ça, les étudiants n'ont pas ce recul-là. Il y a plusieurs façons différentes d'accéder à ces programmes-là contingentés. McGill va en accepter une certaine partie du cégep, mais une bonne partie de leurs étudiants ont un baccalauréat. Le baccalauréat est aussi une très bonne voie pour être admis en médecine, même si tu n'as pas une bonne carte au cégep. Et plus les études universitaires avancent, moins la carte du cégep compte. Mais quand tu es au cégep ou quand tu commences le cégep, c'est comme, puis ta carte est 32 puis tu veux 34, c'est comme la fin du monde, je peux comprendre. Mais il faut relativiser un peu les choses.
Donc quand tu dis 32, tout à l'heure tu avais parlé de 24, moi pour me situer un peu, ces chiffres ils se réfèrent à quoi? Est-ce que c'est plus la cote R est basse, mieux c'est? Plus c'est haut, moins c'est bon? Comment ça
fonctionne? Pour mettre les grandes lignes, ouais. Ça fluctue d'une année à l'autre, là, mais disons, ça a longtemps été 34 à peu près pour avoir le minimum pour faire les entrevues pour médecine. C'était pas une admission automatique, il y a d'autres choses. C'est un autre élément, c'est pas juste la cote R qui compte. Puis j'étais 33 à peu près pour pharmacie, on était dans ces eaux-là. Polytechnique, il disait 26, puis si vous avez moins que 26, c'est pas refus, c'est qu'on fait passer des tests ou des entrevues où on va vérifier votre bagage. Fait que généralement, plus c'est haut, mieux c'est du point de vue des étudiants.
Est-ce qu'on peut se dire, si je me mets un peu dans la peau des étudiants, je travaille bien à l'école, j'ai de bonnes notes, je suis garantie d'avoir une bonne cote R et donc d'y arriver? Ou il peut y avoir une boîte noire, d'autres facteurs qui font que je vais pas pouvoir réussir?
Non, c'est une bonne question. En fait, il y a une sélection qui va se faire. La sélection va se faire et cette sélection-là, évidemment, elle est stressante. Peu importe comment elle se fait, elle peut se faire avec la cote R, elle pourrait se faire avec des examens, elle peut se faire avec des entrevues. Donc ça va être stressant. Maintenant, ce qu'il faut se demander pour un étudiant, c'est dans quel milieu je vais donner le meilleur de moi-même. Et okay. Si on est dans ce milieu-là, c'est comme ça qu'on obtient la meilleure cote R. Les autres stratégies, des fois que les gens racontent ou qui se mettent à réfléchir, en fait, ce sont d'anciennes stratégies qui s'appliquaient pour les anciennes versions des cote R et qui sont restées dans l'imaginaire collectif. Maintenant, c'est vraiment de choisir un endroit où on va aimer travailler, on va aimer s'investir dans ses études, et c'est comme ça qu'on va obtenir la meilleure chose. Et comme Martin le disait, c'est sûr que essayer d'entrer tout de suite dans les programmes contingentés directement du cégep, c'est très difficile. C'est d'essayer d'aller très rapidement. Mais moi aussi, j'ai plusieurs amis qui après sont allés à l'université et puis ensuite ils sont revenus en médecine quelques années plus tard. Et c'est un parcours qui est tout à fait possible. Et des fois, les gens ont fait des parcours très très différents. Ils sont allés en art et ensuite ils reviennent en médecine. Donc il y a toutes sortes d'autres avenues qui vont permettre d'y arriver. Et même du côté, c'est ce qu'on m'a déjà dit, du côté des médecins, on aime peut-être un peu mieux ceux qui viennent avec un bagage. Ouais. Parce qu'ils ont une vision plus large, ils sont plus prêts pour faire de meilleurs médecins que ceux qui viennent directement du cégep. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent pas juste des gens du cégep, ils vont prendre aussi des gens qui ont un bagage, qui ont une histoire, qui ont une humanité qui est intéressante aussi.
Alors, est-ce que la cote R répond bien donc à son objectif initial? Ça répond à la demande, c'est super, ça se passe bien. On continue comme ça, ou il y aurait des points d'amélioration ou des choses qui pourraient être mieux?
On va continuer notre narratif sur la cote R. On était rendu à la cote Z. Oui. Donc là, on va faire apparaître la cote R qui, justement, tenait compte du fait que la cote Z, c'était dans un cégep ou l'autre, c'était calculé de la même façon. Mm-hmm. Tandis que la cote R, disons, la première version de la cote R, celle de 1997, tenait compte d'un paramètre qui était l'indice de force de groupe, qui était assez facile à mesurer. C'était les notes des étudiants au secondaire, moins 74 sur 12 ou sur 14. Je me souviens plus exactement, mais c'est dans l'article qu'on a écrit, si jamais vous voulez. Je pense que ça va être dans les liens du...
Oui, ça va être dans les liens, on va les partager aux auditeurs.
Mais c'était pour corriger ce biais-là, que tu peux être entouré d'étudiants très forts, donc avoir un peu de difficulté à te distinguer de la moyenne, et ça venait corriger ça. C'était l'un des premiers, une raison d'introduire ce paramètre-là. Puis il y a des correctifs, juste des fois 5, il y a des 5 qui apparaissaient pour ramener ça entre 0 et 50. Que les notes, les cotards soient dans les chiffres que les gens connaissaient, mais c'était pour corriger cet effet-là. Est-ce que ça répondait bien? Je pense que dans l'ensemble, oui. Les universités ne semblaient pas très mécontentes. Ça permettait justement d'admettre des candidats qui n'auraient pas été admis sinon. Mais là, Martin va pouvoir continuer là-dessus. Il est apparu quand même des iniquités.
C'est ça. C'est ça, il y avait des iniquités qui sont apparues, et peut-être juste pour compléter ce que tu disais, par rapport à la force du groupe, on avait une chance au Québec, c'est quelque chose qu'on a plutôt au Québec, on a les examens ministériels, pour lesquels tous les étudiants au secondaire, tous les élèves du secondaire passent le même examen. Et ces examens-là, donc, sont une bonne façon d'avoir une estimation pour caractériser les groupes, parce que tout le monde a passé le même examen, donc on peut les comparer les uns aux autres. Donc, c'est avec ça qu'on calcule les indices de force du groupe. Mais à l'usage, on voyait qu'il y avait encore des problèmes dans certains petits programmes, dans les petits groupes et dans les programmes homogènes, par exemple, 13 où les étudiants étaient homogènes, ben, on voyait qu'il y avait des effets spéciaux et c'était pas juste tout le temps. Sauf que on avait un outil, on l'utilisait. Et il fallait démontrer que ça marchait pas. Et c'est là qu'il y a eu une réflexion qui a été entreprise. On a pris des données de l'ensemble des étudiants du Québec pendant plusieurs années. Et puis on a essayé d'aller voir ce qui se passait avec ça. Et puis on a vu qu'on pouvait corriger encore un petit peu mieux si on ajoutait une mesure de la dispersion du groupe ou de l'homogénéité du groupe. Là, c'est un peu la même chose. Et en faisant cette petite correction-là, là, on arrivait vraiment à faire en sorte que la personne était traitée justement. C'est-à-dire que peu importe le collège qu'elle choisissait, peu importe le programme qu'elle choisissait, elle avait autant de chances d'être choisie à la fin.
Donc, c'est ça. Pour compléter cette petite parenthèse technique-là, les deux grands changements à la nouvelle formule de la COTAR, ce n'est pas les notes secondaires, mais c'est les codes Z dans les examens ministériels, comme Martin disait, pour les matières obligatoires. Ce qui fait que si la moyenne une année est à 40 % ou à 80 % ton Z peut être, tant que tu es en haut de la moyenne, ton Z va être bon. Si tu es en bas de la moyenne, ça va être un peu moins bon. C'est pas la fin du monde non plus. Hein. Tu n'es pas refusé au cégep sur la base de ça. Puis le deuxième, donc c'est à comparer tous les étudiants du Québec sur un étalon unique. Puis le deuxième paramètre, c'est qu'on étale pas juste la force du groupe, mais le fait, est-ce que ton groupe, les gens autour de toi, est-ce qu'on s'attend à ce que leurs notes soient très regroupées parce qu'ils arrivent avec un profil assez similaire du secondaire ou ils arrivent avec des profils très hétérogènes de notes, de code Z, de ministère, puis à ce moment-là, on va corriger un peu pour ça.
OK. Mais concrètement, moi, un peu pour visualiser tout ça, ce qui est comptabilisé, tu dis, Martin, il va y avoir plus ou moins ben, les examens, pas plus ou moins, mais les examens ministériels.
Voilà.
Ensuite, il va y avoir, bien sûr, le parcours au cégep, qui va permettre de pouvoir influencer ou du moins ajouter des facteurs dans le calcul de cette cote R par rapport en fait au domaine de la discipline choisie, universitaire choisie. Quelles sont les étapes? Comment ça fonctionne? J'imagine un grand serveur où il y aurait le nom de tous les étudiants du cégep avec des notes qui s'alimenteraient au fur et à mesure. Qu'est-ce qui s'occupe de ça? C'est qui? Est-ce qu'il y a un centre du calcul de la cote R quelque part au Québec? Qui s'occupe de ça?
C'est le ministère de l'Éducation. Les notes sont transmises au ministère de l'Éducation. Il y a toutes les données, puis il corrige ça. Vous avez une cotère, pas par rapport au collège. T'as une cotère, dans ton groupe. Puis, okay. Dans le fond, pour les étudiants, leur vie, ça n'a pas changé depuis les années 70. Ils ont des cours, ils ont une note. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est préparer leurs examens puis essayer d'avoir les meilleures notes possibles. Leur cotère est calculé par le ministère sur un peu les bases techniques qu'on a expliquées avec la formule que vous pourriez trouver dans l'article, mais les étudiants n'ont pas à se soucier de ça. Ils ont juste à se soucier de faire leurs examens, d'avoir le meilleur résultat possible. Oui,
Est-ce qu'il y a déjà eu des anomalies entre nous? Est-ce qu'il y a déjà eu des fois une cote R? On sait jamais une cote R, mais qui ne reflète pas du tout le parcours d'un étudiant. Au vu après de son parcours, moi j'ai lu des choses par rapport à des étudiants allophones, immigrants, avec certaines capacités qui pouvaient tout à fait dans leur pays d'origine, mais qui sont complètement plantés en arrivant sur le territoire. Est-ce que ça peut arriver?
Je reprendrai un exemple dont on avait discuté l'autre fois. En fait, c'est, je pense que vous l'avez évoqué, c'est l'effet de transition. C'est-à-dire que, par exemple, un étudiant qui passe du secondaire au collégial, des fois, c'est un changement de vie. Il faut qu'il vive en appartement. Il y a toutes sortes de choses. Et des fois, peut-être son premier trimestre, il rend pas justice à ce qu'il sait faire. Et si on calcule la cote R à ce moment-là, ben évidemment, c'est peut-être pas idéal. Tu as parlé des gens en immigration, les premiers trimestres où ils arrivent aussi. C'est peut-être des moments où ils s'adaptent à la société québécoise et tout ça. Ils donnent pas leur plein potentiel à ce moment-là. Et à ce moment-là, la cote R, ben, elle peut juste prendre les notes qui sont là pour faire quelque chose. Et forcément, c'est peut-être pas idéal. Et ça soulève la question de, est-ce qu'il faudrait calculer la cote R durant tout le collégial, par exemple? Ou est-ce qu'il faudrait pas peut-être donner une chance au début et aller plutôt vers la fin? Et là, ça, c'est des discussions qui se poursuivent. Et il y a déjà des corrections, des choses qui sont faites pour rendre moins graves les échecs au premier trimestre.
Ne compte pas de la même façon. Les meilleures années, les meilleurs trimestres.
C'est comme ça, ce genre de choses-là. Donc, il y a déjà des petites choses qui sont faites dans cette direction-là. Puis, on peut poursuivre la réflexion pour améliorer encore, évidemment.
Et en termes de, on a nommé, là, on a fait que ça, nommer des enjeux, etc. Est-ce que, selon tes explications, Martin Périard, on arrive, parce que tu énumérais, en fait, en parallèle avec nos discussions, cette histoire de la cote R, de la cote R à la cote R. Là, on est arrivé, tu as dit, où il y a eu les deux dernières évolutions. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont encore prévues pour affiner encore le calcul?
Pas ce que je sache. Peut-être Martin aurait plus d'informations. Non, il n'y a pas
actuellement de révision prévue. Et la façon dont ça fonctionne, et c'est comme ça que ça a fonctionné la dernière fois, lorsqu'on change la formule, ben on essaie pendant quelques années, puis ensuite on demande aux gens s'il y a des problèmes, amenez-nous-les. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, les gens, souvent les directeurs de collège, les gens qui s'occupent de ces choses-là, disent, oui, dans notre collège, nous, on voit que dans ce type de situation-là, l'aquataire ne rend pas un très bon service. Et là, c'est là que les analyses se font en disant, est-ce que cet effet-là se reproduit dans d'autres collèges? Et ensuite, si on s'entend sur le fait que c'est vraiment un effet qui est corrigeable, là, on peut après proposer, il y a toutes sortes d'étapes qui amènent à proposer des corrections. Habituellement, les corrections se font, elles se sont faites toujours à des échelles assez grandes, parce que c'est le temps de voir les problèmes, de les documenter, d'analyser et de proposer des solutions.
Martin a parlé du fait, peut-être, je sais que c'est une pression qui est faite présentement par des regroupements de cégep, de peut-être ne pas compter la première session. C'est pas un changement à la formule de la quotaire, c'est juste ça que je voulais préciser. C'est un changement du calcul pondéré de la quotaire sur l'ensemble des études que des étudiants. Mais peut-être, effectivement, on n'a rien contre ça. On n'est vraiment pas ici pour vendre la cotère ou la défendre. On explique un peu pourquoi elle est là. C'est en raison des programmes contingentés. Puis on pourrait parler un petit peu aussi des autres façons de contingenter pour mettre la cotère en comparaison avec d'autres.
Oui, justement. Mais j'avais une question, parce qu'en fait, on entend beaucoup, des fois, dans les bruits de couloir, un peu des membres du réseau parler un peu dans leur barbe en disant « mais on devrait l'annuler, la cote R ». Mais moi, je comprends que, avec tout ce que vous êtes en train d'expliquer, ce serait un grand pas en arrière, puisque ce programme contingenté permet d'être, comme vous dites, plus égalitaire. Mais est-ce que dans le monde dans lequel on vit, avec toute la compétitivité aussi qu'on a, des établissements, des programmes, etc., c'est quelque chose qui peut être envisageable? Ça pourrait se passer, ça, qu'une cote R soit annulée?
Ma réaction, c'est que non, c'est difficile. C'est un calcul qui est raisonnable, qui est le plus équitable possible, avec lequel on peut faire des choses ou on peut rien faire. C'est-à-dire qu'on peut le calculer et ne pas l'utiliser. Et dans certains programmes, c'est déjà le cas. Il y a déjà des programmes qui n'utilisent pas la cotère, par exemple. C'est tout à fait possible. Il y a des universités, peut-être, dans certains programmes qui ne font que des entrevues ou qui vont trouver d'autres façons de faire. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser parmi d'autres. On pourrait aussi retourner, quand tu parlais d'un pas en arrière, on pourrait retourner aux notes brutes que les profs donnent. Mais à ce moment-là, on va recréer le problème que certains profs sont peut-être plus généreux que d'autres. Est-ce que c'est une meilleure façon? Je pense pas que c'est une façon plus équitable de faire. On considérerait les résultats scolaires encore, mais ça serait un petit peu plus inéquitable. Ça serait un peu moins bien. Donc, ce calcul-là est un calcul qui est raisonnable dans le contexte et qui peut jouer un rôle selon le besoin qu'on a. On l'utilise ou on l'utilise pas dans une situation ou dans une autre. Donc, je pense pas qu'on va faire disparaître la cotère, mais peut-être qu'on ne l'utilisera plus. Peut-être qu'on va dire aux gens, non, on va faire seulement un test à l'entrée à l'université. Ou peut-être, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, peut-être qu'il va y avoir tellement des ressources importantes qu'on va laisser tous les gens s'inscrire comme ils le souhaitent. Il y aura plus, on pourrait faire ça. Et puis après, il y aura un tri qui se fait à l'université après ça. C'est possible aussi. C'est une autre façon de faire et c'est une réflexion que les gens doivent avoir. Mais comme Martin Périard le disait tout à l'heure, si on fait ça, ben là, il y a trop de monde, on n'est plus capable de créer les groupes et on n'a pas les ressources pour le faire.
Mais Martin, je te passe le mic. Mais justement, par rapport au programme contingenté, tu mentionnais qu'il pouvait y en avoir d'autres. Tu mentionnais aussi que la cotère, ça fait pas tout. Quels sont avec la cotère, tu parlais d'entretien aussi tout à l'heure. C'est quoi les parallèles qu'il pourrait y avoir, enfin, du moins les parallèles d'autres manières contingentées de pouvoir, je dirais, répondre au problème du nombre de places?
Il faut réaliser que c'est un problème mondial. On s'est rencontrés pour préparer la balado. Tu nous avais donné l'exemple que tu connaissais à Hong Kong, qui
est de
l'autre côté de la Terre. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Moi, ça m'avait frappé.
Oui, c'est sûr qu'il y a différents types de programmes contingentés. Et effectivement, alors à Hong Kong, ça se retrouve aussi beaucoup en Asie. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que c'est un calcul qui est fait et qui donne, en fait, je dirais, la moyenne du groupe le plus haut. Et normalement, si moi, on va encore prendre l'exemple de la médecine, parce que c'est l'exemple le plus facile. Mais on comprend ici qu'il y a plusieurs autres types de programmes contingentés. Mais il faudrait que j'ai une note plus haute que cette moyenne de groupe. Donc, des fois, ça arrive à une note très haute de 94. Il faudrait que j'ai 96 pour cette année-là, mais ça peut se jauger aussi selon les années. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs types. Je parlais aussi en France du numerus clausus qui a disparu, mais parce qu'aussi, on a remarqué, et c'est ça aussi un des enjeux qu'on peut parler par rapport à certains programmes, et je ne sais pas si c'est le cas ici, mais le programme contingenté a fait aussi que ça a rendu de plus en plus difficile, en tout cas pour la France, l'accès à certains programmes. Ce qui a fait que les étudiants, à un moment, se sont dit « ben on va plus y aller ». Mais dans les programmes de médecine, où on a besoin de médecins, on a besoin en fait de personnel de santé, ça posait de gros problèmes quant à la main-d'œuvre. Donc, on a commencé en France à aller recruter des médecins un peu de toute l'Europe en se disant, mais c'est peut-être en fait le système contingenté qu'on avait depuis des décennies qui a bloqué aussi les inscriptions. On peut se poser la question, est-ce que ça pourrait être ici la même chose? Je sais pas, je pose la question, mais est-ce que la COTER peut aussi être un blocage à la motivation des étudiants et peut-être dissuader les étudiants d'aller vers ces programmes?
Ça me surprendrait que ce soit un blocage. Les rencontres au quotidien des étudiants, je les vois dans les portes ouvertes, en fait, dans les visites secondaires. Il y a certaines conceptions erronées qui circulent dans la société. Il y a des gens qui me parlent de leur cotère du secondaire. Je suis comme, non, ça n'existe pas. Tu ne pas ça. Tu n'arrives pas avec une cotère au cégep. La code Z des étudiants, leur code Z du secondaire qui est relié aux examens ministériels compte pour une infime partie de leur cotère, c'est minuscule. Fait qu'il y a des choses comme ça, ils arrivent pas. C'est déjà comme pas, c'est pas joué d'avance du tout. Fait que les étudiants le savent par contre, dans la grande majorité, ils savent que s'ils travaillent bien, s'ils ont des bonnes notes, ils vont avoir une belle cotère, puis ils vont être récompensés. Puis je pense que c'est un des aspects méritoires de la cotère. C'est que les étudiants savent qu'ils vont pouvoir avoir une bonne carrière, peu importe où ils sont.
C'est ça. Mais j'ai fait un peu mes recherches aussi. J'ai vu, parce que vous avez mentionné, je pense que c'était toi, Martin Riopelle, qui avait mentionné, c'est que ça pourrait être un tirage au sort. Puis j'ai été voir quand même un peu si ça se passe dans le monde, le tirage au sort, parce que ça m'a semblé complètement injuste d'être tiré au sort et d'avoir bien travaillé et de vraiment... C'est comme si tu allais tirer un ticket de loto. Et effectivement, il y a aux Philippines, il y avait ce système aussi de programme contingenté où il y avait tellement en fait une grande compétitivité que les élèves en fait ils tombaient dans une poule où ils étaient je sais pas des milliers à être très 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 bons et puis il y avait 40 places pour suivre le parcours ou je sais pas 150 places puis ils étaient tirés au sort.
Il y avait un tirage
Un tirage au sort puis c'était un jeune homme, en fait, qui expliquait que pendant 3 ans, il s'est pas fait tirer au sort, puis qu'il avait décidé de faire autre chose. Donc, on peut comprendre, effectivement, que on se place quand même à un endroit du monde, géographiquement, où il y a cette réflexion aussi sur l'accessibilité du suivi, en fait, de son parcours universitaire selon son propre choix individuel et non pas un choix venu du hasard.
Un choix qui vient d'ailleurs, puis j'ajouterais peut-être à ça là, juste une petite note sur justement l'idée de l'équité et de la justesse. Est-ce que la COTER pourrait provoquer un effet où les gens n'y vont pas? Je pense pas que c'est ça. C'est la sélection qui produit ça. C'est-à-dire qu'on choisit trop peu de personnes et il faudrait en choisir plus pour que les gens s'y inscrivent. Et ce que je voulais ajouter, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Mais en faisant ça, on perd des gens qui auraient pu faire des bons médecins peut-être, qui ont des profils atypiques et qui n'ont pas réussi à obtenir la cotère. Et si on voulait aller chercher toutes ces personnes-là, ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est admettre tout le monde dans les programmes, puis ensuite laisser les gens faire leurs preuves dans les programmes. Sauf que ça prendrait beaucoup plus de ressources humaines pour faire ça. Mais ça serait peut-être, c'est la façon qui produirait, qui irait chercher dans la société tous les bons médecins qui souhaiteraient, je dis les bons médecins, mais tout dans un programme donné où il y a une demande, tout le monde pourrait finir par y arriver et puis pourrait tirer son épingle du jeu en travaillant fort.
Ouais, c'est ça. De mon point de vue, la cotère, qui est souvent vilipendée, reste un mal nécessaire puis Martin a dit, il y a vraiment beaucoup d'études pour la rendre la plus équitable possible. Est-ce que c'est parfait? Non, mais c'est quand même pas mauvais. Puis juste, un autre aspect aussi, des fois que les gens savent, ils pensent peut-être moins, c'est que c'est maintenant publié sur les plateformes électroniques de transmission des notes, là, qu'on appelle Omnivox. Les gens le savent, ça pop sur leur téléphone. Moi, quand j'étais au cégep, c'était la code Z. Puis je connais pas ma code Z du cégep parce que c'était affiché sur les murs dans l'autre pavillon. Puis j'étais trop paresseux pour traverser, pour aller voir. Puis ça m'intéressait pas parce que c'était juste d'avoir mon diplôme qui comptait. Fait que je connais pas ma code Z.
D'accord. c'est super intéressant et ça me fait penser justement parce que comme tu le disais Martin Perrière, on n'est pas là pour dire en fait que la côte R c'est la meilleure technique de contingence au monde ou quoi, mais en tout cas on est bien content d'avoir cette côte R. Quel serait selon vous l'avenir, non pas par rapport à la côte R et comment elle va évoluer, ça on l'a pas mal abordé. On a beaucoup parlé de par exemple d'études de médecine, mais lors de la conversation la dernière fois, je vous posais la question, programme contingenté, moi dans ma tête j'ai médecine, vétérinaire, j'ai des choses déjà très bien établies, mais vous m'avez surpris là avec un des programmes contingentés qui l'était pas et qui le devient, il y en a quelques-uns comme ça qui commencent à devenir contingentés du fait, je pense, de leur popularité.
Exact, on en a parlé, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais j'avais le génie logiciel dont j'entends beaucoup parler, mm-hmm. qui est probablement devenu contingenté, trop de demandes. Donc, à ce moment-là, on commence à contingenter. Il y a Génie biomédical qui est contingenté probablement parce qu'il coûte plus cher que les autres génies à maintenir. Mm-hmm. En aéronautique aussi, ça va être contingenté. Puis, c'est contingenté, ça pourrait devenir contingenté en éducation aussi, là, tu sais, si on dit, okay, on veut monter la barre des gens qu'on admet dans les programmes d'éducation, on va mettre une critère minimale, puis on va
contingenter.
Ça l'est déjà dans certains programmes, oui.
Dans certains programmes, d'accord. Oui. D'accord. Dans certains programmes, ça l'est contingenté. Donc, ça vient comme ça. On comprend que contingenté veut dire donc popularité, nombre de places, et voilà. C'est ça. C'est les deux. C'est vraiment les deux facteurs les plus importants.
Tout à fait.
La suite par rapport à ça, est-ce qu'on continue dans les établissements à avoir des rencontres? Comment ça se passe du point de vue des parents, des enseignants? Est-ce que tous les enseignants sont au fait? Tous les membres du réseau sont faits, en fait, de cette cotère ou c'est vraiment quelque chose?
Non. Alors, les gens sont, essentiellement, là, du point de vue des profs, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis temps immémoriaux. Mm-hmm. On va en classe, on donne nos cours, on dit disponibilité à nos étudiants, puis on fait des examens, puis on donne des notes. Puis on n'a pas soucié de la cotère en tant que professionnel, mais quand on fait des portes ouvertes, les parents, les étudiants s'en soucient beaucoup. Oui. On en entend vraiment beaucoup parler. Puis je suis content un peu qu'on fasse cette balado, ou les deux. les gens vont pouvoir écouter un peu pour démythifier la cotère, pour montrer que c'est un outil parmi d'autres, puis que c'est pas la fin du monde non plus. Mais aussi lire peut-être l'article qu'on avait écrit, moi et Martin, pour expliquer les aspects techniques de la cotère, si vous voulez plonger là-dedans un petit peu.
Ce serait quoi le conseil que vous aurez à transmettre à éventuellement des parents qui pourraient nous écouter, des enseignants-parents ou même des étudiants aussi? Est-ce que c'est fini pour moi si j'ai une cotère de 12?
Ben,
je sais pas.
Encore une fois, ça dépend de vos rêves. Je vais vous donner une anecdote. J'ai un étudiant qui vient me voir, qui me dit, il avait des problèmes, sa sœur avait des problèmes avec un de mes collègues. Comme je l'avais vu comme étudiant, il vient me parler à mon bureau, puis là, je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'étudie en médecine. Puis là, avec la face que j'ai faite, il a dit, ah oui, je sais, mais je me suis repris à l'université. J'ai fait un bac en biochimie, puis ça a bien été, puis là, je suis rendu en médecine. Donc, je fais, OK, ben, tant mieux. Fait que le conseil que je donne aux parents, à la cotère, c'est comme, par rapport à la cotère, c'est, okay, aller à l'endroit, puis Martin en a parlé à l'entrée de jeu, uh-huh, aller dans l'endroit où vous pensez que vous allez vous allez être le plus heureux, où vous allez être capable de vous épanouir, de mieux réussir vos études. Ça peut vouloir dire suivre vos amis, ça peut vouloir dire ne pas suivre vos amis.
Ouais.
Puis choisissez aussi votre collège sur la base de comment vous pensez qu'il va vous préparer pour l'université. Est-ce que vous avez confiance, ou oui ou non? Puis allez-y là-dessus, mais utilisez la cotère comme stratégie. C'est pas supposé être dans les
C'est ce que je dirais aussi. La cotère devrait pas compter dans la décision. C'est toutes les autres variables qui devraient compter. Est-ce que le collège est adéquat? Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce que pour les parents, c'est est-ce que mon enfant va être bien? Est-ce qu'il va bien travailler dans ce collège-là? Pour l'élève, c'est est-ce que les autres élèves vont être compatibles avec moi? Est-ce que je vais me sentir bien dans ce collège-là quand je vais être dans ma classe? Ou est-ce que c'est des gens qui me sont plus antipathiques? Et ça compte beaucoup dans les études, ce genre de petits détails-là. Est-ce que qui donne le goût le matin d'y retourner, puis ensuite de bien travailler durant la journée, puis de faire le suivi? Puis je dirais aussi de pas travailler trop en même temps que ses études. C'est quelque chose de très important. Et ça va jouer beaucoup plus que toutes les autres stratégies qu'on peut imaginer, qui sont en général fausses à propos de la cotère.
Mm-hmm. Mais moi, j'aime bien la stratégie de Martin Périard quand il nous expliquait qu'en fait, la côte R, c'était vraiment relégué même à un plan où on n'était pas intéressé à la connaître. Le but, c'était d'être, en fait, je comprends bien, un étudiant heureux qui est bien dans son dans son domaine et qui peut choisir, qui choisit ses études, puis qui choisit aussi son entourage. C'est un peu ça, en fait. À la limite, je dirais, de la démystification de la côte R, c'est effectivement... éventuellement de savoir qu'il y en a une, mais de pas vraiment s'en occuper, mais de faire son maximum dans son parcours académique.
Et de réaliser qu'il y a d'autres possibilités qui existent pour... Là, on a parlé de médecine, mais il y a toutes sortes d'autres choses. C'est sûr qu'il y a des portes qui vont se fermer, mais éventuellement, même si tu te ramasses en complètement autre chose, tu vas probablement être très heureux, puis tu vas pouvoir t'épanouir.
Oui.
Ça fait partie d'épanouir. D'apprentissage aussi, effectivement. Ça fait partie d'un apprentissage dans notre parcours. On parle beaucoup de réussite éducative. C'est ça aussi. Puis ça fait partie des paramètres, en fait, qui nous permettent de... Tu parles de portes qui se ferment. Peut-être que j'ai pas une bonne cotère, mais je peux faire un détour et puis y revenir après. C'est ce que je comprends. Mais en tout cas, on a la chance quand même d'être dans un système où on peut faire des détours. Moi, j'ai des collègues formidables qui me disent « Oh, moi, je faisais de la musique avant. » Puis je dis « Ben, qu'est-ce que tu fais en français, didactique des langues ou en anthropologie ?» Ça m'a toujours surpris. Mais je trouve ça chouette parce que ça donne en fait des personnes qui sont multiples et puis qui peuvent alimenter en fait leur profession de différentes choses qu'ils ont fait dans la vie. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour cette explication. C'est sûr là que les auditeurs auront accès aux ressources qui vont leur permettre de lire les articles où ils pourront effectivement rentrer un peu plus, je dirais, dans la technicité des calculs éventuellement. Mais je vous remercie vraiment beaucoup pour votre disponibilité et pour cette discussion sur la côte R.
Ben, merci à toi de nous avoir donné la chance d'en parler.
Moi, je suis bien content. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.